Je m'accompagne toujours un peu de... Oui, vous pouvez vous asseoir, mais vous allez revenir pour le chant de la scène. D'accord, très bien. J'aime bien m'accompagner de diaporamas. On retient plus facilement ce qu'on entend, mais aussi si on voit, si on voit les choses. D'accord ? Et alors voilà, donc je m'inspire un peu d'un petit livre que j'avais envie de me procurer. Le titre m'avait la puissance de la scène. La puissance de la scène. J'étais attiré par ce titre, convaincu qu'après tant d'années de vie chrétienne, j'avais l'impression de ne pas avoir tout découvert, tout compris sur le sens de la scène, de ce qu'on va faire maintenant. On va prendre le pain et le vin. Et surtout par une envie de vivre plus intensément ce moment. De le vivre plus intensément. Ouais. Alors est-ce que vous voulez avec moi ce matin chercher à monter plus haut et puis à ce qu'on vive dimanche après dimanche plus intensément ce partage du pain et du vin, d'en saisir tous les aspects. Je crois que c'est un temps fort et je crois que je ne l'ai pas toujours compris comme ça. Je faisais même partie à certains moments de gens qui disaient bon, si on manque la scène une fois c'est rien, ou deux c'est pas grave. Et maintenant j'ai l'impression de comprendre que c'est vraiment un temps fort, un rendez-vous où le Seigneur nous attend. Vraiment un temps fort de culte. Alors, on va prendre la puissance de la scène, super. Alors je vais prendre un premier passage qu'on connaît habituellement. Il faut reconnaître que quelquefois, et moi le premier, on tombe dans la routine. Je dirais même que, honte à moi, mais quelquefois on rêvasse pendant la scène. On rêvasse un peu, on est un peu ailleurs. Mais pourtant le Seigneur nous attend, c'est un rendez-vous important. Ouais. Alors, j'aimerais prendre un passage qu'on prend habituellement, mais dans ce passage et dans d'autres qu'on va citer aussi, je vais soulever sept aspects de la scène. Sept aspects. Alors le premier passage, donc, 1 Corinthiens 11, 26, il est connu. Ceux qui ont leur Bible, vous pouvez suivre si vous voulez. Mais il y a des choses déjà dedans, dans ce passage. C'est un des passages les plus cités au moment de la scène. C'est Paul qui rappelle ce qu'il a reçu du Seigneur. Hein, d'accord ? Il rappelle ce qu'il a reçu du Seigneur. Et il dit, car j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné, c'est que le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, prit du pain, et après avoir rendu grâce, et dit, le rompit, et dit, ceci est mon corps qui est rompu pour vous, faites ceci en mémoire de moi. De même, après avoir soupé, il prit la coupe, et il dit, cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang, faites ceci en mémoire de moi. Toutes les fois que vous en boirez, car toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. Premier aspect, la scène, c'est une proclamation. Vous annoncez. C'est pas un prédicateur seulement qui annonce, mais c'est vous. Vous n'êtes peut-être pas prédicateur, enseignant, mais en prenant la scène, vous annoncez quelque chose. Vous annoncez la mort du Seigneur en prenant le pain et le vin. Ce verset l'affirme très clairement, hein. On proclame la mort du Seigneur. On ne se contente pas de la proclamer les uns aux autres, les frères et sœurs chrétiens, mais on l'annonce au monde entier. On l'annonce au monde entier et on le proclame à l'ensemble du royaume invisible. Le royaume invisible, vous savez, la Bible nous enseigne qu'il y a un royaume invisible. Un monde de ténèbres aussi, un monde de lumière et un monde de ténèbres, il y a un royaume invisible. Et on annonce en prenant la scène au royaume invisible, aux anges, aux bons comme aux mauvais, aux esprits bons et mauvais, on annonce à l'univers tout entier la mort de Jésus. C'est un acte de proclamation autoritaire, puissant. Et c'est d'une importance qu'on sait. Est-ce qu'on réalise quand on va prendre la scène chaque dimanche? Est-ce qu'on réalise qu'on proclame en l'univers tout entier? Waouh! Il se passe quelque chose dans les lieux célestes quand on fait ça. Et nous ne sommes pas les seuls à le faire. Dans le monde entier, des milliers, des millions de chrétiens comme nous partagent le pain et le vin et proclament à l'univers entier, aux puissances des ténèbres, aux puissances d'oppression aussi, que Jésus est mort et qu'il est ressuscité. C'est donc le premier aspect, c'est essentiellement un acte de proclamation, le fait de prendre la scène. On annonce la mort du Seigneur. Deuxième aspect, souvenir. Souvenir. Alors là, il faut lire 1 Corinthiens 11, 25, où Jésus dit, faites ceci en mémoire de moi. Hein? Paul rappelle une parole qui a été citée par le Seigneur quand il a partagé la scène la nuit avant sa crucifixion. Faites ceci en mémoire de moi. Le deuxième aspect, c'est le souvenir. Lorsqu'on prend la scène, on regarde à nouveau à sa mort. Et Jésus a institué la scène pour nous aider à nous souvenir. Tout le monde sait, tous les pédagogues, les enseignants, c'est qu'on va retenir si on entend, si on voit et si on fait. Et bien, la scène, on entend, on voit et on fait. Nous pouvons oublier la mort du Seigneur. Ça veut dire quoi? On n'oublie pas, on voit des croix tout le temps. Mais on peut oublier l'impact de cet acte. On peut oublier l'impact et l'effet de cet acte. Et c'est pour ça que Jésus insiste. Il a donné cette ordonnance pour qu'on puisse se souvenir. Les grandes vérités fondamentales du Nouveau Testament sont tellement importantes que Dieu nous a ordonné non seulement de les entendre, de les voir, mais aussi de les pratiquer. Il en est ainsi pour la scène. Si Dieu a pris tant de soin pour nous donner cette ordonnance, c'est qu'il veut qu'on s'en souvienne. Et Derek Prince, qui a écrit ce livre, il fait cette remarque suivante à ce propos. Il dit, je suis convaincu que si autant de chrétiens sont en proie à des problèmes spirituels, c'est parce que leurs pensées ne sont pas centrées sur la mort de Jésus. Ils disent, je me demande si Dieu m'aime. Comment est-ce possible ? Qu'un chrétien, après des années, dise « Je me demande si Dieu m'aime. » Ça arrive. Bon, peut-être la dépression, on ne va pas accuser, on n'est pas là pour jeter la pierre. Mais voyez, c'est une invitation à nous recentrer sur la mort. Ouais, c'est parce que leurs pensées ne sont pas centrées sur la mort de Dieu. Ils disent « Je me demande si Dieu m'aime. Est-ce que Dieu m'a oublié ?» Ils ne parleraient pas de la sorte, dit Derek Prince. Ils se souvenaient de la croix. La croix est l'ultime démonstration de l'amour de Dieu pour chacun d'entre nous. Paul a dit dans Romains, lui qui n'a pas épargné son propre fils et qui l'a livré pour nous, comment ne nous donnera-t-il pas toutes choses avec nous, avec lui? Ces paroles, elles nous garantissent un héritage. Vous êtes peut-être déçu que de ce que beaucoup, vous n'avez pas beaucoup d'héritage. Peut-être vos parents vous ont déjà légué un héritage, ou peut-être qu'ils auront à vous léguer, ce serait peu, mais le Christ nous a légué un sacré héritage. De vivre dans la gloire avec lui, vous rendez compte? Vous rendez compte? Nous savons où nous allons. Nous savons que nous allons dans la gloire avec lui pour l'éternité. Waouh! La scène, c'est là pour nous le rappeler. Hein. Dieu nous a dit en quelque sorte, il est vraiment capital que dans des périodes de ténèbres, d'épreuves et de pressions, que mon peuple pratique cette ordonnance, ce sacrement et cette ordonnance. En prenant le repas du Seigneur, nous continuerons de nous rappeler la réalité de la mort et du sacrifice de Jésus pour nous. Dieu dit encore, je veux que vous ne l'oubliez jamais. Je veux que vous vous en souveniez continuellement. Alors, un troisième aspect, l'attente. Chaque fois que vous prenez le pain 20, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. Jésus revient. Jésus revient, Pascal Obispo l'a dit, hein, en présentant son spectacle sur la fresque musicale qui va passer au Zénith. Jésus revient, il a dit. Non, c'est une boutade, hein, ça c'est en passant. Hein, voilà. Mais oui, Jésus revient. Est-ce qu'on est habité par cette réalité, cette espérance? Ces derniers temps, j'ai l'impression que le Saint-Esprit me pousse à ne pas m'endormir chaque soir sans penser à ça. Et chaque soir, ou c'est audiblement, ou c'est dans ma pensée, mais je dis, Seigneur, je sais que tu reviens bientôt. Je veux être prêt. Purifie-moi. Garde-moi d'oublier cela. Tu reviens bientôt. Je veux être prêt. Je veux être cette épouse préparée. Donc nos regards ne se portent pas seulement en arrière vers sa mort, mais en avant, vers sa venue. On proclame sa mort, il se porte aussi vers l'avant. On attend le retour de Jésus. Chaque fois qu'on met cette ordonnance aux pratiques, on se rappelle ces deux vérités. Jésus est mort pour la croix, pour nos péchés. Deuxièmement, Jésus va revenir. Jésus va revenir. Bientôt, je vais le voir dans sa gloire. Rendez compte ? Ah, quel privilège ! Je le verrai tel qu'il est, dans sa beauté, dans sa splendeur. Il y a tellement de choses qui ne sont pas belles. Quel réconfort de savoir que je verrai Dieu dans toute sa gloire. Il y a quand même des reflets de sa gloire. Hein. Là, en vacances, on voit des beaux paysages, on voit des paysages magnifiques. C'est un reflet de sa gloire. Un beau sourire, c'est un reflet de sa gloire. J'ai déjà beaucoup parlé là-dessus, le sourire. Les chrétiens, nous devons être des chrétiens souriants. Nous devons être un reflet de sa gloire. Alors pendant la scène, on se souvient, mais aussi on attend. On attend le retour de Jésus. Et dans cette attente fervente, c'est bon de laisser tout ce qui est secondaire, mineur, qui nous trouble, nous perturbe, laisser tout ça disparaître un peu. Nos regards se portent sur la croix et vers le retour que nous attendons. Je crois que c'est un chrétien qui a écrit « Nul autre passé que la croix, nul autre avenir que son retour. » Est-ce qu'on va proclamer ça? Est-ce qu'on veut proclamer ça maintenant? Vous êtes d'accord? On veut le proclamer « Nul autre passé que la croix, nul autre passé que la croix, nul autre avenir que son retour. Nul autre avenir que son retour. » Voilà. Un quatrième aspect qu'on trouve dans les textes qui parlent de la scène, c'est la reconnaissance, mais le mot le plus juste, c'est peut-être discernement du corps de Christ. La reconnaissance du corps de Christ. Et c'est donc Paul qui dit toujours dans 1 Corinthiens 11, 29, « Car celui qui mange et boit, sans discerner le corps du Christ, mange et boit un jugement contre lui-même. » Ah, discerner, c'est voir sous la surface. C'est voir sur la surface. Par exemple, quand quelqu'un qui a un ministère de délivrance ou qui a même un ministère de prophète, il peut discerner parfois une réalité intérieure qui ne se voit pas dans les apparences chez quelqu'un. Une réalité... un problème spirituel ou quelque chose, voilà. Donc c'est voir sous la surface, c'est voir sous les apparences. Et donc, pendant la scène, nous sommes appelés à voir sous la surface, sous la surface de ce pain et de ce vin, le corps de Christ. Paul dit, puisqu'il s'agit d'un seul pain, nous sommes dès lors un seul corps. Le pain représenté est pour moi le corps du Christ que je prends et dont je me nourris. Mais il représente aussi le corps collectif. Les trois aspects qu'on vient de voir parlent de notre relation avec le Christ. Mais les trois aspects maintenant, à partir de ce quatrième-là, parlent de notre relation avec le corps du Christ, l'Église. Et il nous faut reconnaître le corps du Christ, à travers le pain, l'Église. Et Jésus a dit dans Jean 6, « En vérité, je vous le dis, si vous ne mangez la chair du Fils de l'homme, si vous ne buvez son sang, vous n'avez point la vie en vous-même. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang a la vie éternelle et je le ressusciterai au dernier jour. » C'est des paroles qui ont un peu heurté, qui ont choqué là. Il y en a qui sont partis en disant « Qu'est-ce qu'il raconte Jésus là ? Manger sa chair, boire son sang. » Je pense que Jésus faisait penser déjà à la scène qu'il allait instituer. Et c'est déjà une invitation à prendre le pain et le vin régulièrement, en discernant son corps, en discernant le corps du Christ. Alors c'est très fort ce que nous le dit le Seigneur. Bien sûr, ce n'est pas le sacrement qui nous donne la vie. Bien sûr, le pauvre brigand sur la croix, quand il a demandé, il s'est repenti, il a demandé pardon à Jésus, il n'y avait pas le temps de prendre le pain et le vin. Il n'y avait pas le temps même d'être baptisé, mais il était sauvé quand même. C'est bien sûr cette repentance et cette foi en Jésus qui nous sauve, mais c'est important de prendre le pain et le vin en signe justement de notre foi, en signe de notre que nous discernons vraiment son corps. Derek Prince donc commente ce passage de Jean 6 par ses propos. Il dit « Il me semble que ce que le Seigneur veut dire dans ce verset revient en quelque sorte à ceci. Lorsque vous prenez le pain et la coupe par la foi, en ayant rempli les conditions requises, il se produit alors quelque chose dans votre corps physique qui garantit que je le ressusciterai. » Ouais. Il viendra un moment où au son de, où le Seigneur va ordonner à l'archange Gabriel de sonner de la trompette, et quand il donnera le signal, les morts vont ressusciter. Et incroyable ce qui va se passer, même les morts décomposés, les corps décomposés sous terre, de tous ceux qui sont en Christ, ils vont être reconstitués en un corps nouveau et glorifié. Ça nous dépasse, c'est complètement, ça nous dépasse, mais nous croyons. Nous croyons. Et c'est une espérance extraordinaire. Je crois qu'on devrait prendre la scène avec cette profonde reconnaissance pour cette assurance que nous avons de notre résurrection. Quel réconfort, cette perspective, quand on est face à un immense chagrin. Quand, par exemple, on vient de perdre notre compagnon ou notre compagne, quel réconfort de prendre la scène dans cette assurance que mon corps ressuscitera avec le corps de mon compagnon, de ma compagne qui m'est si cher. Quel réconfort. Et Derek Prince a vécu cela. Il a perdu son épouse d'un cancer, sa première épouse, puis il s'est remarié ensuite. Il a perdu sa première épouse d'un cancer assez vite, alors qu'elle n'était pas encore très vieille. Et donc il a dit, c'était un immense chagrin, c'est comme si on avait arraché quelque chose de ma chair. Mais il a expérimenté que dans la scène, il trouvait le réconfort. Et je vais ressusciter et mon épouse ressuscitera avec moi. Quel réconfort. C'est ici le pain qui est descendu du ciel, dit Jésus. Il n'en est pas comme de vos pères qui ont mangé la manne et qui sont morts. Celui qui mange ce pain vivra éternellement. Jésus est la source de vie, c'est le nom de cette église d'ailleurs. Ça s'appelle l'église source de vie, en rapport avec le fait que Jésus est la source de la vie. Notre vie dépend de notre relation avec lui. Et la scène est un temps fort de cette relation. On avance. Il y en a sept. Cinquième aspect, le partage. 1 Corinthiens 10, 16. La coupe de bénédiction que nous bénissons n'est-elle pas la communion au sang de Christ ? Le pain que nous rompons n'est-il pas la communion au corps de Christ ? Par le partage du pain et de la coupe avec nos frères, on se rappelle qu'on appartient à une grande famille. Les Corinthiens, ils avaient des gros problèmes. Quand ils partageaient le pain, il y en a qui manquaient de nourriture et ils ne faisaient aucun souci de ça. Aucun souci. Je crois que c'est important de considérer que le frère, enfin celui qui est à côté de moi, est un membre du corps de Christ que Jésus aime de tout son cœur. Et c'est pour ça que j'attriste le Seigneur si je n'aime pas cette personne, si je l'attriste profondément, quel qu'il soit. Hein, on peut avoir des affinités, mais on peut avoir. Mais c'est important de ne pas mépriser qui que ce soit. Qui que ce soit. Là, on attriste le cœur du Seigneur. Hein. C'est pour ça que Paul a même dit aux Corinthiens, c'est pour ça qu'il y a des malades et des morts parmi vous, parce que vraiment, vous le prenez avec une trop grande légèreté. Alors, je ne dis pas ça pour dire, attention, toute maladie, c'est dû à ce problème, du tout. Mais Paul dit que chacun s'éprouve. Donc, on prenne un temps pour se recueillir et pour reconnaître et discerner ce corps. Et surtout, si on a une animosité vis-à-vis de quelqu'un, on la laisse. On entre dans cette dimension de pardon tout de suite. Ça, c'est important. Hein. Alors donc, voilà, le partage. Nous sommes dans une grande famille. La participation, c'est ça. La participation. Oh là là, attention, je crois que je vais trop vite, oui. La participation. Nous participons à sa mort et à sa résurrection. Mais je crois que j'ai terminé là-dessus, je pense. Hein. Participation. Ouais. Nous participons à sa mort, à sa résurrection. Le partage. Voilà, suivant. Voilà. Nous faisons partie d'une grande famille, et cette grande famille, elle existe depuis que les premiers chrétiens ont commencé à prendre le pain et le vin. Donc, cette grande famille, elle comprend tous les chrétiens de tous les siècles, de tous les temps, de toutes les cultures, de toutes les catégories sociales, de toutes les confessions chrétiennes. Et on doit avoir conscience de ça. Quand on prend la scène, on doit avoir conscience qu'on appartient à cette grande famille. Et Derek Prince a expérimenté quelque chose aussi. Donc sa femme est morte, sa première femme est morte, mais 2 ans auparavant, elle était dans une dépression et ça n'allait pas du tout, au point qu'elle doutait même de son salut. Elle n'était pas bien, il y avait quelque chose là qui n'allait pas, et c'était très, très, très embêtant pour une femme d'un serviteur de Dieu. Hein. Et donc, ils ont eu la visite d'un ami qui a prié avec eux, qui a un don de discernement. Et donc, cet ami a reçu une image dans la prière, l'image d'une église avec des vitraux, et qui semblait vraiment décrire l'intérieur d'une église particulière. Et alors, son mari a dit, ce ne serait pas une église luthérienne ? Et alors, sa femme a dit, je ne sais pas, je vois pas le rapport. Ouais. Et cet ami lui a posé la question, tu as quelque chose avec l'église luthérienne ? Et sa femme a répondu, je les déteste. Elle était vraie, elle était franche. Et pourquoi elle les détestait ? Parce que tout simplement, c'était son église d'origine. Et je crois qu'avec le renouveau dans le Saint-Esprit, etc., elle était baptisée du Saint-Esprit, elle s'est fait baptiser par immersion, et ça n'a pas passé. C'était considéré comme un rebaptême par tous ceux de son église. Et chaque fois qu'elle rencontrait quelqu'un, un pasteur d'une église luthérienne, c'était toujours extrêmement tendu. Donc elle a dit, je les déteste. Et alors, donc là, le Saint-Esprit a convaincu, bien sûr, là, l'épouse de Derek Prince d'avoir à se repentir de cet état de fait, elle a demandé pardon. Et elle a trouvé la libération de sa dépression. Mais quelques temps après, et donc sa femme était morte ensuite 2 ans après, Derek Prince était invité dans une grande conférence organisée par les églises luthériennes. Et il a pris la scène, ils ont vécu un temps magnifique de scène avec des participants de l'église luthérienne, et puis il était saisi par le Saint-Esprit, comme si vraiment le Seigneur lui disait, bah, écoute, tu représentes ta femme aussi. Ta femme, elle est au ciel, mais tu la représentes aussi en prenant la scène. Et je crois que, voilà, la scène, un aspect de la scène, c'est ce partage avec cette grande famille des chrétiens de tous les temps. Vous avez perdu un être cher qui aimait le Christ et qui vous souffrait bien. Pendant la scène, voilà, le Seigneur peut vous donner cette paix profonde. Cette paix profonde. vous êtes en, voilà, avec, en communion, hein, avec cette grande famille. Et enfin, un dernier aspect, la séparation. Ah. Alors, 1 Corinthiens 10, 21, donc c'est un passage où Paul traite de la question de la, des viandes sacrifiées aux idoles. Je termine avec ça, hein, et on va prendre la scène ensuite. Et la question était, peut-on manger des viandes sacrifiées aux idoles? Ah. Et Paul dit ceci, il dit, je dis que ce qu'on sacrifie, on le sacrifie à des démons et non à Dieu. Or, je ne veux pas que vous soyez en communion avec les démons. Vous ne pouvez boire la coupe du Seigneur et la coupe des démons. Vous ne pouvez participer à la table du Seigneur et à la table des démons. Ah, voilà. Lorsqu'on prend la scène, on trace une ligne de séparation entre nous et tout ce qui est satanique et toutes ses formes. Hein? On trace une ligne de séparation. On se retire de toutes sortes d'engagements occultes, de toute activité qui n'honore pas le Christ. On ne peut pas avoir un pied dans chaque camp. D'accord ? On doit avoir les deux pieds dans le camp avec le Seigneur. Et donc, la scène souligne cet aspect-là. Séparation, non pas totale d'avec le monde, j'en parle souvent, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Séparation d'avec l'esprit du monde. Ouais. Bien entendu qu'il faut partager la bonne nouvelle, il ne faut pas être, faut pas vivre comme des... des ermites, oui. Voilà. Mais séparation. Ça veut dire que chaque fois que je prends la scène le dimanche, quand je rentre à la maison, après avoir pris la scène, je veille à ce que dans ma maison, il n'y ait rien qui déshonore le Seigneur, que ce soit un objet qui parle d'une divinité, que ce soit un livre, que ce soit... un quelconque objet ou un quelconque objet qui rappelle, qui a un lien un peu avec un engagement occulte. Mais quand je rentre à la maison après la scène aussi, je veille sur ce que je regarde, sur Internet, à la télévision, je veille sur ce que je dis, mes paroles, je veille sur mes pensées. Alors on ne peut pas prendre à la fois part à la table du Seigneur et à celle des démons. Nous ne pouvons pas partager les choses de Satan et les choses de Dieu. Alors voilà, les 7 aspects nous sont rappelés. Voilà. Les 7 aspects, proclamation, souvenir, attente, reconnaissance, discernement du corps de Christ. 5e aspect, participation. Je participe à sa mort, à sa résurrection. Partage avec la grande famille. Séparation, si on peut méditer ça et vivre plus intensément dans cette perspective chaque fois qu'on prend la scène dimanche après dimanche. Alors je vais inviter Jacques peut-être à commencer à venir et à jouer un peu avant qu'on prenne ce chant magnifique qui était vraiment, il était bien inspiré quand il a composé ce chant, Jacques, un chant qui s'intitule Règne sur mon cœur. Ah, c'est vraiment un très beau chant. Et je crois que ça va nous amener dans ce recueillement. Mais, et pendant qu'il va commencer à jouer, et avant qu'on chante les paroles, j'ai un peu une prière. Et j'ai envie qu'on la prie ensemble. Vous êtes d'accord? Une prière qui résume tout ça, qui rassemble tout ça, tout ce qu'on vient de voir. Et si vous voulez, vous la dites avec moi. On ne force jamais ici, hein, d'accord? Vous ne voulez pas, vous. Voilà, mais si vous voulez... Vous faites cette prière avec moi, si vous voulez. D'accord ? Je vais attendre que Jacques soit prêt. Tu peux commencer à jouer. Voilà, vous pouvez rester assis à votre place. Je dis une première fois la phrase, et si vous êtes d'accord, vous la répétez avec moi. Voilà, pour vous se préparer. Hein. On se prépare à la scène. Ouais. On se prépare, on prépare nos cœurs. Tendre Père, je te suis reconnaissant pour ce magnifique sacrement qu'est la scène. Tendre Père, je te suis reconnaissant pour ce magnifique sacrement qu'est la scène, qui nous a été donné par Jésus la nuit avant sa crucifixion. Qui nous a été donné par Jésus la nuit avant sa crucifixion. Je m'engage dès à présent à prendre plus souvent ce sacrement. Je m'engage dès à présent à prendre plus souvent ce sacrement. Comme un moyen puissant de proclamer ta mort. Comme un moyen puissant de proclamer ta mort. De me rappeler ta mort et d'attendre ton retour. De me rappeler ta mort et d'attendre ton retour. De reconnaître ton corps, l'Église. De reconnaître ton corps, l'Église. De participer à ta mort et à ta résurrection. De participer à ta mort, ta résurrection. De partager cette communion avec tous les croyants. De partager cette communion avec tous les croyants. Et de me séparer de tout ce qui est ténébreux et satanique. Et de me séparer de tout ce qui est ténébreux et satanique. Merci parce qu'en prenant la Sainte Cène, je reçois de toi la vie. Merci parce qu'en prenant la Sainte Cène, je reçois de toi la vie. Et je peux célébrer la vie éternelle que tu m'as offerte. Et je peux célébrer la vie éternelle que tu m'as offerte. Je veux sortir de toute ténèbre pour entrer maintenant dans la lumière. Je veux sortir de toute ténèbre pour entrer maintenant dans la lumière. Je me repens de mes péchés, de mauvaises attitudes. Je me repens de mes péchés, de mauvaises attitudes. Je te demande pardon à travers le sacrifice de Jésus sur la croix pour moi. Je te demande pardon à travers le sacrifice de Jésus sur la croix pour moi. Au nom de Jésus, je pardonne à tous ceux qui m'ont blessé. Au nom de Jésus, je pardonne à tous ceux qui m'ont blessé. Je déclare placer ma confiance en toi et en tes plans pour ma vie. Je déclare placer ma confiance en toi et en tes plans pour ma vie. Je prépare à présent mon cœur à te rencontrer. Je prépare à présent mon cœur à te rencontrer. Chaque fois que j'aurai l'occasion, en prenant part à ce merveilleux sacrement de la Cène. Chaque fois que j'en aurai l'occasion, en prenant part à ce merveilleux sacrement de la Cène. Amen. Alors, on reste dans ce recueillement pendant ce chant. Vous pouvez le fredonner aussi. Prenez le pain et le vin. Vraiment, on aurait pu laisser le... Ouais, non, c'est rien, c'est pas grave. Oui, c'est vrai, on va mettre les paroles. Ouais. Voilà, en se rappelant de ces sept aspects. Proclamation, souvenir, attente, reconnaissance, participation, partage, séparation.